Ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que vous tourniez dans Matthieu, le chapitre 28. Et faut que je m'habitue là, ici. Hein? Le titre du message que j'aimerais de vous partager ce matin, ça s'intitule « Que signifie être chrétien et pourquoi le baptême d'eau, c'est important? Hein? » Vous savez, c'est toujours... une joie, oui, de voir des gens confesser leur foi. Puis le baptême d'eau, ce n'est pas une tradition ou une pratique qui a été inventée par les hommes au cours de l'histoire. C'est vraiment une ordonnance établie par Dieu, par Jésus, qu'on retrouve dans la Bible. Amen. Et c'est la raison pourquoi nous pratiquons puis nous baptisons encore des personnes. Puis dans Matthieu 28, si vous êtes là, vous pouvez lire avec moi dans votre Bible, ça dit ceci, hein? « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est pas merveilleux, le Seigneur est avec nous. Amen. On va prier ce matin. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ton amour pour chacun de nous, Seigneur. Merci que tu désires notre bien, Seigneur. Tu désires, Seigneur Dieu, tu désires, Seigneur, nous pardonner, Seigneur, nous restaurer, Seigneur, nous donner, oui, la vie éternelle et aussi la vie abondante en toi, Seigneur. Merci que tu es venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et ça, c'est nous, Seigneur. Et on te remercie pour ton amour, Seigneur. Et Seigneur, je prie ce matin que par ton esprit, tu puisses parler à chacun de nos cœurs, Seigneur. Rends ta parole vivante à nos cœurs, Seigneur. Je prie que mes frères et mes sœurs ici n'entendent pas seulement ma voix, mais surtout la voix de ton esprit, ta voix, Seigneur, qui parle à leur cœur, Seigneur, qui les rassure, Seigneur, que lorsqu'ils mettent leur foi en toi, leur confiance en toi, Seigneur, qui sont des enfants, qui sont rachetés, qui sont sauvés, Seigneur, en toi. C'est ma prière, Seigneur. Et je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, Seigneur, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière. Et je te demande ces choses dans le nom de Jésus, Père. Amen. 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 Qu'est-ce que ça signifie d'être chrétien et pourquoi le baptême d'eau, c'est important? Vous savez, le mot chrétien est beaucoup répandu dans notre monde. Hein? Puis même, on pourrait dire que c'est très commun dans notre société aujourd'hui. Et la plupart de nous, on a entendu parler de la chrétienté depuis notre jeune âge. Hein? Et plusieurs de nous, en fait, si quelqu'un nous aurait demandé, lorsque nous étions jeunes, si nous étions chrétiens, on aurait probablement... Ben oui, bien sûr, tu sais. Et quelques mois passés, justement, j'étais chez moi, puis on a des nouveaux voisins. Et puis, en fait, c'est des musulmans. Et ils m'ont invité pour dîner avec eux. Ben, je dis certain, tu sais. Et dans notre conversation avec eux, ben, le sujet, ils m'ont demandé, est-ce que vous êtes chrétien, monsieur? Ah, je lui ai dit oui. Ah oui. Ah oui, je suis chrétien. Je ne lui ai pas dit que j'étais pasteur pour ne pas leur faire peur tout de suite, là. Mais j'ai dit oui, je suis chrétien et je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, tu sais, qui est mon sauveur, puis je crois dans la Bible. Puis je leur ai posé des questions concernant leur foi. Mais je les ai écoutés. Et en fait, mon intention, c'est de continuer la conversation avec eux, certainement. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, j'ai une meilleure compréhension de ce que ça veut dire d'être chrétien que 50 ans passés. Quand quelqu'un m'aurait demandé la question, je ne savais pas trop, j'aurais dit oui, mais tu sais, aujourd'hui, je sais qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien. Puis je pense que la plupart de vous, vous savez aussi. Et il y a des personnes parfois, vous savez, et même des adultes qui m'ont déjà demandé, ou ils m'ont dit que, en fait, ils voulaient se faire baptiser parce qu'ils voulaient devenir chrétiens. Et moi, je vous ai dit, les frères, je leur pose la question en retour, est-ce que nous nous faisons baptiser pour devenir chrétiens ou est-ce que nous nous faisons baptiser parce que nous sommes chrétiens? Puis des fois, ça amène une bonne conversation, vous savez. Et je sais que pour plusieurs, ici, c'est une question facile à répondre aujourd'hui pour vous, mais pour d'autres personnes, ce n'est pas toujours si facile que ça. Et j'aimerais ce matin, justement, essayer de répondre à cette question-là pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien et pourquoi le baptême d'eau, c'est important. Premièrement, vous êtes avec moi? Premièrement, on va regarder le mot « chrétien » dans la Bible. Et en fait, le mot « chrétien » apparaît trois fois dans la Bible. Et premièrement, dans Actes, le chapitre 11, versets 25 et 26, on lit ceci. Vous pouvez suivre avec moi ou tourner dans vos Bibles. Mais ça nous dit que Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. La première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Le mot grec pour chrétien, c'est « christianos », hein, qui veut dire, en fait, un disciple de Christ. En fait, au début, c'était comme un genre de nickname. On pourrait dire que c'était un nom qui était donné pour ceux de la famille de Christ, de la maison de Christ qui suivaient Christ. Et ici, ça nous dit que c'est la première fois que les disciples de Jésus sont appelés chrétiens. C'est parce qu'ils croyaient en Jésus, puis ils ressemblaient un peu à Jésus. Ils étaient, et en fait, c'est les gens du dehors qui les appelaient chrétiens parce qu'ils voyaient quelque chose de différents dans leur vie, dans leur foi, dans leur comportement, dans leur amour les uns pour les autres. Puis ils croyaient en Jésus, puis ils ressemblaient à Jésus un peu. C'est un peu dans... Et le nom chrétien a continué de se répandre et à être utilisé. Et avec le temps, puis même 2000 ans après, on parle encore des chrétiens, mais on retrouve le mot chrétien à trois reprises dans le Nouveau Testament, et on le voit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 26, alors que l'apôtre Paul y était en prison et qu'il a comparu devant le roi Agrippa, il défendait sa cause et sa foi. Et puis, à un moment donné, le roi a dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Puis en fait, Paul lui dit, « Ouais, ça, dans un sens, il dit, ça serait merveilleux, puis même, pas juste toi, mais que tout le monde devienne chrétien ici, à l'exception de mes chaînes. » C'est ça qui est dit. Mais on voit qu'à ce temps-là, les disciples de Jésus étaient communément appelés chrétiens. On croit que c'est environ à peu près 15 ans après l'incident à Antioche, ici. Et puis, ils étaient perçus comme une secte, puis tout ça, mais on voit. Le mot chrétien est encore utilisé une troisième fois dans le Nouveau Testament, c'est dans 1 Pierre, le chapitre 4, et au verset 16, et on le lit comme ceci, ça dit, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Amen. Et Pierre, ici, est en train de dire aux disciples de Jésus, aux croyants, de ne pas souffrir comme voleur ou comme malfaiteur ou s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais il dit, si vous souffrez parce que les gens vous appellent chrétien, parce qu'ils se moquent de vous ou qu'ils vous persécutent à cause que vous êtes un chrétien, il dit, en ayez pas honte, mais remerciez Dieu plutôt à cause de ce nom-là, que les gens voient quelque chose dans votre vie, vous savez. Et ça s'applique encore aujourd'hui pour nous. Si on souffre, si on est persécuté à cause que nous sommes chrétiens, on devrait dire merci Seigneur. Plutôt que... On ne devrait pas avoir honte de notre foi et de déclarer que nous sommes chrétiens, qu'on croit en Dieu et en Jésus-Christ. Amen! Absolument, absolument. C'est très important. Donc, on voit un petit peu que le mot chrétien, ça s'est, le nom chrétien, ça s'est développé au début de l'histoire, puis, et en fait, ça continue encore. Et en fait, même, il y a une définition dans un dictionnaire qui dit que le nom de chrétien s'est développé dans notre monde jusqu'à un point de dire que si quelqu'un est né dans une famille chrétienne ou qui est dans un pays chrétien, bien, automatiquement, c'est un chrétien. Il y a une certaine définition, si vous regardez dans le dictionnaire. Est-ce que c'est vraiment ça? Pas tout à fait. Hein? Donc, c'est quoi la vraie définition d'une personne qui est réellement un chrétien? C'est que selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu nous dit dans sa parole. Je veux voir ça avec vous ce matin. Premièrement, comment est-ce qu'on devient un chrétien? Comment est-ce qu'on devient un chrétien? Est-ce que nous sommes nés chrétiens parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne et que nous avons été baptisés lorsque nous étions bébés? Ça, c'est un sujet sensible en Acadie. Puis, Paris, dans la francophonie, au Nouveau-Brunswick et au Québec, un peu partout, je sais que je touche un point sensible ici ce matin. Je suis très conscient de ça. Ne pensez pas que je suis dans les nuages, tu sais. Mais c'est un sujet très important si nous voulons marcher dans la vérité, et si nous voulons connaître la vérité, et aussi lorsque nous allons quitter ce monde, que nous soyons sûrs d'aller au bon endroit, ce qu'on s'en va, avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, d'être chrétien parce qu'on est né dans une famille chrétienne ou qu'on a été baptisé lorsque nous étions bébés, ce n'est certainement pas ça que la Bible enseigne. Nous ne voyons pas ça dans la Bible. En fait, même si dans le judaïsme, la religion juive, ça nous dit que parce que tu naissais dans une famille juive et que tu étais circoncis le huitième jour, bien, tu faisais automatiquement partie du peuple juif, hein? Du peuple juif. Et d'une manière, dans la chair, oui, tu faisais partie du peuple juif. Et encore aujourd'hui, il y a des juifs, tu sais, sur la terre. Je ne suis pas en train de nier ça, tu sais. Mais tu étais considéré à ce moment-là comme faisant partie de la nation juive dans la chair, tu sais, d'une manière biologique. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, et en fait, à tous nous autres, il déclare que le vrai juif, selon Dieu, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Et dans Romains, le chapitre 2, il dit ceci. Il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, celui qu'il est, c'est celui qu'il est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accompli par l'Esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et ici, vraiment, l'apôtre Paul nous dit que, oui, le vrai Juif, là, c'est lui qui l'est intérieurement. C'est celui qui a cru dans son cœur et qui a été converti sous la conviction de l'Esprit de Dieu. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, je ne dis pas qu'il n'y a pas un peuple Israël sur la terre qui a été mis à part, tu sais, pour accomplir les promesses de Dieu. Puis Jésus, c'était un juif. Merci Seigneur pour le peuple juif. Amen. Et il y a plusieurs personnes qui sont juives aujourd'hui qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus. Et il y a une différence entre une personne qui se dit juive de nom et une personne qui a cru dans le Messie que Dieu a envoyé. Il y a une différence, hein? Et en fait, Jésus même a dit à plusieurs Juifs que Abraham n'était pas leur père parce qu'ils ne croyaient pas en lui. On lit ceci dans Jean, le chapitre 8. Vous pouvez lire plus le contexte aussi, mais ça dit, il lui répondit, les Juifs ont dit à Jésus, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous auriez la foi d'Abraham. » Et même, vous feriez les œuvres d'Abraham. Les Juifs, ils croyaient que parce qu'ils étaient nés dans une famille juive, parce qu'ils avaient été circoncis le huitième jour, qu'automatiquement, la faveur de Dieu était sur eux autres. Puis c'était pas de ta fête. Jésus va. Et ça, il pensait qu'importe qu'est-ce qu'il faisait, tu sais, parce qu'il était né d'une famille juive, qui avait été circoncis, tout était correct. Jésus leur dit, non, ça ne marche pas comme ça. Et je pense que vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça. Hein? On peut faire le même parallèle avec le baptême d'eau dans la chrétienté. Ce n'est pas parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne et que nous avons été baptisés bébés que nous sommes automatiquement chrétiens. Il faut avoir, en fait, une circoncision de cœur, un changement de cœur. Il y a quelque chose qui doit se produire à l'intérieur de nous, vraiment dans notre cœur, pour que nous devenions un vrai chrétien selon la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Et devenir chrétien, une deuxième chose que je veux voir avec vous, c'est que devenir chrétien, selon la Bible, c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Pour devenir chrétien, c'est une décision qu'on doit prendre. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre cette décision-là pour nous. C'est un choix que nous prenons de reconnaître, oui, que nous avons péché contre Dieu. C'est un choix que nous prenons de croire en Jésus-Christ, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et que nous l'acceptons comme notre sauveur. Et on voit plusieurs exemples dans la Bible. Il y en a un, en fait, dans les Actes des Apôtres, avec l'histoire de Philippe et l'eunuque éthiopien. Hein? On lit ceci dans Actes 8, au verset 35. Ça dit, « Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois dans ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Philippe dit à l'eunuque, « Si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. C'est possible. » Et l'eunuque a confessé sa part. Oui, je crois. » Et Philippe, « On va aller dans l'eau, mon gars! » Peut-être qu'il a dit, « J'espère que l'eau n'est pas trop froide, je ne sais pas, là. » Et c'est pourquoi, avant de baptiser quelqu'un, je leur demande toujours, vous savez, s'ils ont cru en Jésus-Christ, s'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Parce qu'avant d'être baptisés, nous devons croire et accepter Jésus-Christ comme notre sauveur. En d'autres mots, on pourrait dire, vous savez, c'est comme leur demander s'ils sont réellement chrétiens, si on prend la vraie signification. Nous devons être chrétiens avant de se faire baptiser. On doit croire en Jésus-Christ. Oui, devenir chrétien, selon la Bible, c'est une décision personnelle qu'on doit prendre. Et aussi, on pourrait dire que devenir chrétien, c'est une expérience réelle qui change notre vie. Et c'est pourquoi la Bible, vous savez, compare la foi en Jésus, la conversion à Dieu, si vous voulez, à une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance. Jésus a dit ceci à Nicodème. Pourtant, Nicodème, il connaissait bien les Écritures, tu sais. Mais Jésus lui a dit, hein, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » On pourrait dire, devenir chrétien, vous savez, au vrai sens du mot, c'est comme naître de nouveau. C'est naître de nouveau, c'est comme accepter de faire un demi-tour dans notre vie, de choisir de prendre une direction nouvelle dans notre vie. C'est comme avoir une rencontre avec Dieu et puis de choisir, de décider de prendre une nouvelle direction. En fait, le mot « repentance », c'est un peu ça que ça veut dire, c'est un détour, un « U-turn hein? ». En bon français, on dit un « U-turn hein? ». Mais vous savez, c'est une conversion de devenir chrétien. C'est un changement de pensée, d'attitude. À un moment donné, dans notre cœur, il y a un changement d'attitude qui se passe dans notre cœur envers Dieu, envers sa parole, envers ses commandements, et c'est même un changement d'attitude envers nous-mêmes. Dans le sens que, alors que nous pensions, on vivait peut-être comme c'était nous l'être suprême à servir, là. Moi, myself and I, à un moment donné, nous réalisons que, well, you know, c'est pas tout à fait ça. C'est Dieu qui doit être le premier dans ma vie. Et nous reconnaissons que nous devrions lui donner la première place. Et en fait, c'est ça qu'on appelle la repentance. La repentance. Et comprenez-moi bien, là, ça ne veut pas dire qu'on devient parfait du jour au lendemain, là. Ça serait-tu pas merveilleux? Mais c'est pas comme ça. Un jour, lorsqu'on va être avec le Seigneur, on va être rendu parfait. Aujourd'hui, on est en transformation. Hein? On est en le processus d'être sanctifié, la sanctification. Tu sais? Puis merci, mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous accepte comme on est. Puis il dit, laisse-moi travailler dans ta vie. Puis tu vas voir, je vais faire un chef-d'œuvre avec toi. Amen. Merci, Seigneur. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est un changement de direction à l'intérieur de nous, dans notre cœur. C'est un changement. C'est ça qu'on appelle la repentance. Et pour devenir chrétien, il faut passer par l'expérience personnelle de la repentance. Amen. On ne peut pas devenir chrétien sans passer par là. Et c'est important que nous prêchions ce message. Également, ceux qui prêchent la parole, qu'on ne prêche pas juste « accepte Jésus, puis tout va être beau, puis tout va être bien », tu sais, sans que « inquiète-toi pas de rien ». Non, un vrai chrétien, il a connu la repentance. Il a été convaincu par l'Esprit de Dieu, puis il s'est repenti de ses péchés, puis il a reçu Christ dans sa vie comme sauveur, et là, il a une nouvelle vie. Il faut prêcher toute la parole. Pasteur Stéphane, Pasteur Stagno, hein? Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Mais Jésus a dit, vous savez, il dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il faut passer par la repentance. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On doit s'humilier devant Dieu, reconnaître notre besoin de Dieu humblement. Pareil comme un petit enfant. Se repentir et se convertir, c'est choisir de se tourner vers Dieu, de croire en lui dans sa parole, de prendre la route, en fait, qui mène à la vie et marcher avec son aide. On a vraiment besoin de l'aide de Dieu, mais merci que Dieu est là. C'est comme, on pourrait dire, c'est faire le choix de prendre la porte étroite. Je ne sais pas c'est qui me disait ça cette semaine, la porte étroite, là. OK, c'est toi, Daniel, hein? C'est ça, hein? Quand tu me disais ça, là, ça me faisait penser à ça. T'sais. Mais Jésus a dit ceci. Hein? Jésus, dans Matthieu 7, il a dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Yes. Ça veut dire, à un moment donné, on se détourne et on commence... On rentre par la porte. C'est Jésus la porte, la porte de ça. Amen. C'est ça. Devenir chrétien dans le vrai sens du mot, c'est s'arrêter un jour dans notre vie, de prendre une décision de cœur, de croire en Dieu, d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur et de s'engager à le suivre dans notre cœur. Oui. C'est comme ça. La Bible dit hein, dans Romains 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, la confession de la bouche qu'on parvient au salut. Et vous savez, lorsque je vous dis ceci, je ne dis pas que ça doit être une expérience explosive ou dramatique avec beaucoup d'émotions. T'sais? Pas nécessairement. Ça se peut. Ça se peut. Je me souviens... À Chédiac, plusieurs années passées, on avait fait une croisade d'évangélisation. Et puis, il y avait cette dame-là. Son mari se faisait longtemps quand il parlait du Seigneur. Puis, il ne voulait rien savoir. Puis, t'sais, il l'envoyait promener. T'sais. Puis, pour faire plaisir à sa femme, le dimanche soir, si je me souviens, c'était le dimanche soir. Il disait, je vais aller, tu sais, je vais y aller, là, mais tâne-moi plus avec ça. Et je me souviens, lorsque l'évangéliste, à la fin du message, il a fait un appel. Il a avancé en avant. Il s'appelle Bernard Leblanc. Si vous voulez apprendre le chiac, là, c'est un professeur par excellence. Bernard, il a avancé en avant, puis il pleurait, il n'arrêtait pas, il n'était plus capable d'arrêter, il était complètement brisé, vous savez. Puis je peux vous dire, depuis ce temps-là, Bernard, il parle du Seigneur à tout le monde. Si vous le voyez, en tout cas, là, je suis sûr qu'il va vous parler du Seigneur. Il va dans les Tim Hortons partout. Il y a des gens même qui le trouvent tannant. mais Bernard, c'est comme ça qu'il s'est converti, vous savez. Et puis, mais tout ça pour vous dire que parfois, oui, ça se fait comme ça, mais ça ne se fait pas toujours comme ça. Parfois, ça peut se faire progressivement, tu sais. Parfois, je vous ai déjà dit, moi, j'ai accepté le Seigneur en pelletant de la neige, tu sais, à Chibougamau. Il y a beaucoup de neige à Chibougamau. Mais ça s'est fait, tu sais. Puis quand j'ai remonté dans notre appartement, mon épouse était là. Oups! Il y a quelque chose de changé. Il y avait quelque chose de changé, puis je lui ai dit, j'ai accepté de suivre le Seigneur. Puis, j'étais décidé. OK. Anyway, ça, c'est une autre histoire. Elle, c'était pas toujours facile pour elle non plus. Mais, vous savez, c'est de cette expérience-là, de cette nouvelle naissance, c'est une conversion, un changement d'attitude, de pensée envers Dieu, envers nous-mêmes, envers l'être suprême. OK, là, je suis en train de retourner en arrière ici, excusez-moi, là. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que pour certains, cette expérience-là, ça se produit à un moment particulier, c'est radical, et pour d'autres, c'est une expérience progressive qui aboutit à une décision décisive. Amen! Parfois. Et même, vous savez, pour des enfants. Des enfants comme Mathias. Là, il est bien à côté de son père. Là. Il a de l'air. Hein? Mais t'as les deux yeux grands ouverts. C'est correct, Mathias. C'est correct. Mais des enfants qui grandissent dans une famille chrétienne et qui sont exposés à la parole de Dieu, même pour eux, ils doivent faire l'expérience de la nouvelle naissance, de la repentance et de la conversion à un moment donné dans leur vie pour devenir un enfant de Dieu, un vrai chrétien, un disciple de Christ. Mes enfants, j'ai quatre enfants, puis tous les quatre ont accepté le Seigneur avant 10 ans. Et je me souviens, ça a été vraiment des belles expériences. Merci Seigneur. Et quand ils étaient adolescents, j'ai eu le privilège de les baptiser. C'est quand ils étaient plus vieux, puis ils voulaient vraiment. C'était vraiment une joie pour moi. Mais il y a plusieurs pasteurs que je connais, ils ont grandi dans des familles chrétiennes de pasteurs, et ils témoignent qu'à un certain âge, puis peut-être à 8 ans, 12 ans, ou différents âges, dans un camp ou dans un service, dans une église, une soirée, dans leur chambre, quoi que ce soit, à un moment donné, ils ont choisi d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Et leur vie a été transformée. Amen. Et comprenez-moi bien ici, là, ce n'est pas qu'ils ne croyaient pas avant. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas jamais entendu parler de Jésus. Ils avaient entendu parler de Jésus. Mais c'est à ce moment-là qu'ils ont fait une expérience personnelle avec Dieu. Puis cette décision-là, ça a changé leur vie. Vous êtes avec moi? Vous savez, plusieurs de nous ici, probablement la majorité, nous avons entendu parler de Jésus dès notre jeune âge. Merci Seigneur! Ma mère m'a enseigné des choses. Mon père, un peu plus ma mère que mon père, mais mon père aussi. Tu sais, ils m'ont enseigné des choses, ils m'ont parlé de Dieu, ils m'ont parlé de Jésus, puis je remercie le Seigneur pour ça. Et même, j'ai été dans une église pendant plusieurs années où j'entendais des portions de l'Évangile ici et là, puis les lettres de Paul, des épîtres. Puis vraiment, je remercie le Seigneur pour ça. Vous êtes encore avec moi? Amen. Mais, mais on a besoin plus. Qu'est-ce que je veux dire par ça? En fait, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas entendu parler de Jésus et qu'on ne croyait pas nécessairement, mais nous devions faire cette expérience-là personnelle avec Dieu. C'est ça, la nouvelle naissance. Et c'est là que nous devenons un vrai chrétien. La Bible nous dit, en fait, que nous étions morts spirituellement avant de venir à Christ. Mais Dieu nous a fait revivre avec Jésus-Christ lorsqu'on accepte le Seigneur. Devenir chrétien, c'est passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Et c'est là que nous recevons la vie spirituelle. Notre corps est encore susceptible à la mort. C'est vrai. On vieillit encore, puis on a des bobos des fois, tu sais, ça. Mais nous savons que parce que l'Esprit de Dieu vit en nous, un jour nous allons avoir un corps complètement glorifié. Comme Jésus a été ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter. Puis j'ai hâte de vous voir dans votre corps ressuscité. Vous allez être... Mais cette expérience-là, vous savez, aussi une chose qu'on doit réaliser, par laquelle on a été sauvé, racheté, justifié, ressuscité, c'est une expérience qui est impossible de nous-mêmes. Dans le sens que on ne peut pas se sauver nous-mêmes. On ne peut pas se sauver par nos bonnes intentions, par nos bonnes œuvres. En fait, c'est ça que toutes les religions du monde essayent de faire, c'est de se sauver par des bonnes œuvres, par ci, par ça, par des rites ou des choses comme ça, vous savez. Mais le vrai christianisme, c'est pas que... C'est Dieu qui vient vers nous dans la personne de Jésus-Christ pour nous donner la vie, pour nous sauver. Amen. Et cette expérience-là, même cette conviction-là pour venir à la repentance, de reconnaître qu'on est pécheur, qu'on est privé de la présence de Dieu par nous-mêmes, il n'y a aucune personne, aussi intelligente soit-elle, aussi bonne soit-elle, aussi connaissante de la notion du bien et du mal, soit-elle, vous savez, qui peut arriver à ce point-là. C'est vraiment, c'est seulement par la conviction du Saint-Esprit. C'est impossible de nous-mêmes, mais la Bible nous dit que qu'est-ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Et c'est la raison pourquoi on est sauvé aujourd'hui. Amen. Puis merci Seigneur, il nous cherche, il continue de nous chercher, même quand on le rejette, puis qu'on ne veut rien savoir. Combien de personnes avant de venir, d'accepter Jésus dans votre vie, là? Des fois, vous l'envoyez promener, là, Seigneur, même que vous avez peut-être blasphémé son nom. Je me souviens, avant que je vienne au Seigneur, vous savez, je vous ai déjà dit ça, sûrement, mais je travaillais dans les mines. J'avais fini l'université, j'ai été dans les mines, parce que ça payait bien. Et je peux vous dire une chose, que dans les mines, ça parle beaucoup du Seigneur. Au Québec. Mais pas toujours dans le bon sens. Et j'ai honte de le dire, mais moi aussi, je faisais partie de cette gang-là. Puis quand que le Seigneur m'a touché, je disais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Je n'étais plus capable. J'étais plus capable de blasphémer le nom du Seigneur. Ça n'a pas de bon sens. Puis quand j'entendais les gens blasphémer le nom du Seigneur à côté de moi, ça... Puis je commençais à chanter des louanges envers le Seigneur. Je disais... Anyway, c'était... Puis c'est vraiment... C'était une nouvelle naissance. C'était vraiment l'Esprit de Dieu. Et puis c'est... Mais c'est tout ça pour vous dire que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Puis heureusement, il ne nous abandonne pas. Amen. J'ai eu la chance de partager avec Raymond cette semaine. Puis c'est comme ça dans toutes nos vies, comment est-ce que Dieu, il nous aime, il ne nous abandonne pas. Daniel, toi aussi, hein? Et vraiment, tous ceux qui sont baptisés aujourd'hui, le Seigneur, il ne vous a pas lâché. Amen. Puis le Seigneur ne nous a pas lâchés. Il nous aime. Il veut notre bien, vraiment. C'est ça. Et, vous savez, ça pour dire que nous n'avons aucune gloire à retirer du fait que nous sommes sauvés de notre salut. Si nous en retenons une gloire personnelle, c'est parce qu'on n'a pas compris le vrai sens de la grâce de Dieu. La gloire revient au Seigneur. C'est par grâce, par le moyen de la foi. Amen. C'est le don de Dieu, comme Éphésiens nous dit. Puis cette expérience-là, c'est devenu possible par l'action du Saint-Esprit qui vient nous convaincre de nos péchés. Puis Dieu va utiliser différents. Il va utiliser d'après une prédication, il va utiliser peut-être un témoignage de quelqu'un qui se fait baptiser pour parler à quelqu'un. Il va utiliser différents moyens, vous savez. Et c'est pour ça que c'est un travail d'équipe aussi, hein, lorsqu'on de communiquer la parole de Dieu. Pour devenir chrétien dans le vrai sens du mot, donc, c'est ça que ça veut dire, une expérience personnelle qu'on vit comme une nouvelle naissance spirituelle, une expérience qui est une décision de changer de direction dans notre vie en rapport avec Dieu et Jésus, c'est rendu possible par le Saint-Esprit. Et oui, nous ne sommes pas nés chrétiens, mais, et nous ne devenons pas chrétiens par un rite religieux, mais c'est une expérience personnelle avec Dieu. Ça va bien? Mais là, vous me dites, il va-tu nous parler du baptême d'eau un matin ou quoi? Donc, pourquoi le baptême d'eau? Pourquoi le baptême d'eau? On pourrait dire, vous savez, que le baptême d'eau, c'est la suite logique. C'est la conséquence normale de notre expérience en tant que chrétien. On a vraiment reçu Christ, on veut le confesser, on veut déclarer notre foi. Le baptême n'accomplit pas la purification de nos péchés, mais c'est la démonstration de notre foi, la confession de notre foi et de notre engagement aussi, d'une bonne conscience à vouloir vivre pour le Seigneur, à vouloir servir le Seigneur, vivre pour lui. L'apôtre Pierre, il dit ceci dans 1 Pierre 3:21, il dit « C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. » Cet événement préfigurait le baptême. Il parle le déluge ici. Il dit « Celui-ci ne consiste... » Il parle du baptême ici. « Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. » Le baptême d'eau, oui, c'est la confession de notre foi, et c'est aussi une confession de notre engagement, une démonstration de notre engagement à vouloir suivre le Seigneur, à vouloir vivre pour lui, l'honorer et le servir. Et c'est une décision, c'est une déclaration importante. Amen. Et vous savez, la Bible nous dit de ne pas prendre à la légère un engagement, des engagements envers Dieu surtout, mais de vraiment réfléchir avant de faire un engagement. Ça devrait être comme ça dans toutes nos vies et certainement envers Dieu. Et c'est un engagement aussi. Et c'est un engagement qui demande une prise de conscience, qui demande aussi un âge raisonnable de raison. Et c'est pourquoi, vous savez, souvent que... on va demander à des enfants de jeune âge, parfois, d'attendre quelque temps avant de se faire baptiser pour qu'ils puissent vraiment bien comprendre et réaliser l'importance et la signification de qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Et c'est une des raisons pourquoi on ne baptise pas les bébés aussi. Mais le baptême du chrétien qu'on voit dans la Bible, et aussi, vous savez, ça se fait par immersion. Hein? Ça se fait complètement sur l'eau. Puis je vous ai dit, hein? Vous allez aller complètement autour de l'eau. Hein? Et après 5 minutes, si vous respirez plus, là, on vous laisse là. Non, non. On va vous sortir. Inquiétez-vous pas. Mais oui, vous savez, le baptême du chrétien, on voit dans la Bible, et dans le mot grec « baptizo », ça parle d'une immersion totale. Et c'est pour ça que nous le faisons de cette façon-là. Mais nous voyons aussi un symbole, une image. C'est l'image de notre union avec Jésus, que nous sommes morts avec Jésus. On accepte de mourir à notre nouvelle vie. On est mort en Christ et on est ressuscité dans une nouvelle vie. En fait, c'est ça que ça représente, vous savez. C'est un symbole. On est une nouvelle nature. Et c'est pour ça, vous savez, que le baptême, on pourrait dire, la conversion à Jésus, c'est le point de départ. Et le baptême d'eau, c'est la suite logique et normale d'un chrétien. C'est une étape, un geste d'obéissance au Seigneur. Vraiment. C'est un geste important dans notre pèlerinage. Et on devrait tout chrétien devrait se faire baptisé. Est-ce que vous vous souvenez de la journée que vous vous êtes fait baptiser? Moi, je m'en souviens aussi. Mm-hmm. Hey, si vous pensez que l'eau elle peut être froide ici, à Chibougamo, l'eau est froide. Mais l'apôtre Pierre, hein, il dit, quand les gens disent, ben, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Et dans Matthieu, hein, et je veux terminer ce matin, il dit, allez, faites toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et aujourd'hui, on se réjouit avec trois de nos frères et deux de nos sœurs qui vont se faire baptiser, vous savez. Et en partageant ce message ici, vous savez, j'ai quelques objectifs aussi, c'est que ça puisse nous rappeler, nous aussi, notre baptême et notre engagement que nous avons pris lorsqu'on s'est fait baptiser, de dire « Oui, Seigneur, je reçois ta grâce, Seigneur, puis mon désir, c'est de vivre pour toi. » Parce que des fois, vous savez, avec le temps, là, on oublie. C'est ça. Je prie que ça nous rappelle chacun de nous, puis que ça fortifie notre engagement à vouloir vivre d'une manière pour rendre gloire à Dieu, honorer Dieu. Puis si nous le voulons, puis nous le recherchons, puis nous le demandons à Dieu, Dieu va nous donner la grâce. Dieu nous donne la force. Ce n'est pas par nos forces, c'est par sa force. Il le fait. Il l'accomplit. Amen. Et aussi, un de mes désirs à travers ce message ce matin, c'est de donner de l'assurance à ceux qui ont expérimenté cette nouvelle naissance-là, cette conversion-là que je vous parle ce matin. Plusieurs de vous ici, vous savez de quoi je parle, parce que vous l'avez vécu. Amen. Vous vous rappelez le moment ou l'endroit ou comment ça s'est fait. Vous vous rappelez, tu sais. Puis un de mes buts aussi ce matin, c'est de vous donner de l'assurance que vous êtes vraiment l'enfant de Dieu. La Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. La Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie ici. Et l'apôtre Jean, il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et je prie ce matin que ça fortifie votre cœur, ça vous donne de l'assurance, que ça affermit votre désir pour marcher avec Dieu. Amen. Et aussi, un autre objectif que j'ai à travers ce message, puis je vais terminer bientôt, là, inquiétez-vous pas, c'est que ça puisse apporter aussi une réflexion. Une réflexion, je ne vous connais pas tous ici ce matin, certainement, mais que ça puisse apporter une réflexion à ceux, peut-être, qui se pensent chrétiens parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne puis qui ont été baptisés lorsqu'ils étaient bébés. Je ne sais pas, écoutez, c'est pas mauvais, là. Comprenez-moi bien, là. T'sais? Mais si vous pensez qu'à cause de ça, que vous n'avez plus de problème, non, je ne devrais pas dire ça. Là. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Si vous basez votre relation avec Dieu sur ça, sans qu'il y ait une différence dans votre cœur, ce message ici, je prie que ça apporte une réflexion dans votre vie pour vous. Que ça vous amène à réaliser que vous avez besoin de plus que ça. Vous avez besoin de rencontrer Dieu. Vous avez besoin d'avoir une expérience avec lui, de la repentance et de la nouvelle naissance pour avoir la vie éternelle. Vous êtes avec moi ce matin? Et je veux que vous sachiez, je ne vous connais pas tous, mais si c'est vous ce matin, je veux que vous sachiez quelque chose. C'est que Dieu vous aime. C'est que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés aussi. C'est que vous êtes vous aussi un pécheur, une pécheresse, et que vous avez besoin de prendre une décision, d'accepter Christ dans votre vie, votre sauveur, pour avoir la vie éternelle. Si c'est vous ce matin. Et en fait, j'aimerais ça prier à ce temps-ci. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, comme ça, et avant qu'on aille au baptême, j'aimerais de donner l'opportunité à des gens ici, peut-être, qui auraient que vous réalisez que vous avez besoin de plus dans votre vie que juste un arrière-plan. Vous avez besoin d'accepter Christ en votre vie. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants? Et ce matin, gardez nos yeux fermés. Dieu nous aime tous. Nous sommes tous pécheurs. Jésus est mort pour tous et tous doivent le recevoir comme leur sauveur. Et ça, ça fait partie de chacun de nous. Ça fait partie de vous. Et j'aimerais que vous puissiez répéter cette prière-là dans votre cœur ce matin si c'est le désir de recevoir Christ dans votre vie comme votre sauveur. Merci, Seigneur, pour ton amour pour moi. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, je crois que tu es mort pour moi et je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur. Par la foi. Merci, Seigneur. Je reçois ton pardon. Et je te donne ma vie, Seigneur, pour te servir. Merci, Seigneur. Amen.